Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
Quelques jours après la disparition de Delphine Seyrig en 1990, Marguerite Duras écrivait « Ce visage maigre, en dehors de toute mode, sur lequel est posé le sourire de l'humour universel ou de l'intelligence, c'est pareil, il est aussi imprévisible que celui d'une inconnue de la rue. Et cela, chaque fois qu'on la revoit. Elle parle comme quelqu'un qui vient d'apprendre le français, qui aurait des dispositions fantastiques pour le français, mais qui n'en aurait aucune habitude et qui éprouverait un plaisir extrême, physique, à le parler. On dirait qu'elle vient de finir de manger un fruit, que sa bouche en est encore tout humectée, et que c'est dans cette fraîcheur, douce, aigre, verte, estivale, que les mots se forment, et les phrases, et les discours, et qu'ils nous arrivent dans un rajeunissement unique. » En 1971, Delphine Seyrig parlait de son métier de comédienne au micro de Simone Mathil pour Les métiers de rêve.
Du rêve d'être comédienne à la comédienne de rêve. Delphine Seyrig, quand a-t-elle commencé à rêver ?
Quand j'avais 17 ans, j'avais des amis qui faisaient du théâtre et ça m'a donné envie d'en faire aussi.
Mais avant, vous n'y pensiez pas ?
Non, pas du tout. Je ne savais pas quoi faire. Rien de ce que j'étudiais en classe ne correspondait vraiment à des besoins. Et tout à coup, quand j'ai vu des gens faire du théâtre, je me suis dit, mais voilà, ça c'est formidable. Et ça m'a pris comme ça. Et j'ai lâché les classes et j'ai été travailler avec des professeurs.
Et vous avez travaillé avec des professeurs et vous avez eu la chance de jouer assez vite quand même.
Oui, je crois 2 ans après avoir commencé à travailler. 2 ans. C'est plus vite que... Enfin, on devient médecin en plus longtemps que ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on se met à travailler, on a des trous énormes. Il m'est arrivé de rester 1 an sans rien faire, même plus. Où j'étais tout simplement désespérée, où je ne voyais aucune raison pourquoi tout à coup quelqu'un m'engagerait. Et où je ne voyais non plus aucune raison pourquoi il ne m'engagerait pas. C'est-à-dire qu'on va frapper à des portes, on apprend qu'un tel monte telle pièce, alors on se dit, ben, je vais aller voir, peut-être qu'il m'engagera, et puis on y va, et puis il ne vous engage pas, parce qu'on est trop ceci, trop cela, trop grande, trop petite, trop jeune, trop vieille, trop... Bon, et puis c'est complètement arbitraire, enfin, c'est des gens qui ne vous connaissent pas de toute façon. Moi, je crois que le théâtre... Il faut le faire avec des gens qu'on connaît. Moi, j'ai beaucoup de mal pour des acteurs quand on ne vous connaît pas du tout et qu'on doit arriver là comme ça et passer une audition, c'est-à-dire réciter un truc qu'on sait vaguement, ou lire un morceau de la pièce alors qu'on ne sait pas ce que recherche le metteur en scène. C'est très, très... je sais pas. Je ne sais pas quel autre moyen il y a d'engager des acteurs, mais celui-là est terrifiant. Alors on rentre chez soi et on sait très bien qu'il n'en sortira rien du tout. Et on est désespéré parce qu'on est jugé vraiment dans sa chair quand on passe une audition comme ça. Exactement comme quand on joue à une générale devant des critiques. D'ailleurs, c'est la même chose. On passe une sorte d'examen, on sait qu'on vous juge de la tête aux pieds, de l'intérieur, de l'extérieur, que c'est vraiment votre chair elle-même qui est en cause. Tout ce que produit votre corps, tout ce que produit votre caractère est jugé froidement et c'est une chose très, très difficile à supporter. Mais là, ben oui, j'ai fait comme les autres acteurs. J'essayais de passer des auditions, j'essayais d'entrer au TNP. J'ai pas réussi, j'ai même jamais réussi à passer d'audition. Et c'était mon rêve, c'était d'entrer au TNP. Alors, comme je ne faisais rien à Paris, et que je connaissais des gens en Amérique, je suis partie en Amérique parce que je ne faisais rien, parce que j'en avais marre de chômer et que, comme je parle l'anglais comme le français, je me disais, peut-être que là-bas, j'avais été très passionnée par ce qui se faisait là-bas, parce que j'avais vu des films, j'avais vu À l'Est d'Éden, il y avait des gens comme James Dean, il y avait des gens comme ça, Marlon Brando, des actrices comme Julie Harris. Je me disais, c'est curieux, on n'a pas ça en France, ils ont une façon de se comporter qui correspond tellement plus à ce que moi je sens. Et puis, ils ont l'air de se fiche pas mal du vieux théâtre ou de l'ancienne façon de jouer. J'ai senti qu'il se passait quelque chose là-bas. Alors bon, je suis allée là-bas, puis ça n'a pas mieux été. J'ai aussi beaucoup traîné là-bas, mais j'avais ce cours auquel j'allais deux fois par semaine et qui littéralement me maintenait le moral. Et puis, même chose, je passais des auditions. Puis finalement, j'étais engagée pour un petit rôle dans une pièce là-bas. Puis c'est à ce moment-là qu'Alain René m'a vu et qu'il m'a proposé de faire Marianne Bad.
Mais en fait, Marianne Bad, ça n'était pas destiné à vous au départ, je crois.
C'était destiné à personne. En fait, Alain René m'avait vu jouer à New York. Il pensait à moi pour un rôle dans un film qu'il n'a jamais tourné, qu'il n'a jamais pu monter. Enfin, là, ça ne s'est jamais fait. Et alors, par contre, on lui a proposé un scénario qui était celui de l'année dernière, Marianne Bad. Et à ce moment-là, il m'a fait passer des essais pour ça. Et je crois qu'il a dû pas mal m'imposer, parce que je ne sais pas dans quelle mesure les producteurs étaient d'accord pour prendre quelqu'un de totalement inconnu. Je ne sais pas ça, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, après les essais, il m'a dit que c'était moi qui voulais. Il avait fait faire des essais à plusieurs jeunes comédiennes. Et voilà, c'est un coup de chance comme ça. Sans ça, je serais peut-être encore à me tordre de douleur dans un coin, comme beaucoup de mes camarades qui n'ont pas eu la même chance que moi. C'est là qu'on voit la chance. C'est que Sacha Pitoëf tournait avec moi dans l'année dernière à Marianne Bad, et que à ce moment-là, il m'a proposé de jouer une pièce qu'il allait monter, qui s'appelait Les Exaltés, qui était une pièce de Robert Musil, qui n'a eu aucun succès, que nous avons joué 30 fois devant quelques personnes, très peu. Et puis, il a dû tout de suite pallier à ça par une pièce dont il était à peu près sûr. Et il a pensé à La Mouette, parce qu'il sait que c'était une pièce qui pouvait marcher. Il m'a demandé de jouer Nina. Et c'est comme ça, en effet, c'est parce que j'ai connu Sacha en tournant avec lui qu'il m'a proposé de jouer au théâtre. Et alors, à partir de La Mouette, ça a été... on m'a tout le temps proposé des choses qui m'intéressaient.
Sur le chemin d'une carrière, l'étape américaine, l'Actors Studio, l'originalité de son enseignement.
Ce qui était extraordinaire là, c'est que c'était pas des classes où on est jugé sur une interprétation qu'on donne d'un personnage, sur la diction, sur des choses comme ça. Le travail là-bas était basé sur ce qu'on arrivait à exprimer de soi-même à l'intérieur d'un personnage. Et ça, c'est une chose que je n'avais jamais vue en France, qui n'existait pas, et qui, à mon avis, n'existe pratiquement pas maintenant encore. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire voilà, eh bien, le misanthrope, c'est un homme qui comme ci et comme ça, donc il faut le jouer comme ci et comme ça, on vous parle de vous, on parle de soi, et on arrive à vous expliquer que soi-même, on doit trouver des couleurs différentes en soi qu'ensuite on utilise dans un personnage. Mais on ne vous donne pas une interprétation du personnage. C'est à vous de la trouver à travers vous-même. Et c'est une école qui reste pour moi tout à fait vivante et importante. D'ailleurs, j'ai jamais jamais brisé mes liens avec eux. Je continue à essayer de travailler comme eux le font.
En fait, c'est en Amérique que vous avez appris vraiment votre métier, non ?
Oui, enfin, c'est en Amérique que j'ai compris... Que j'ai compris un certain nombre de choses dont je ne peux plus me passer pour travailler, en effet. Et d'ailleurs, j'ai à Paris on ne peut pas appeler ça un professeur, c'est plutôt un entraîneur. On pourrait comparer ça aux entraîneurs de sport. Et c'est précieux parce que quel que soit le rôle que je travaille, j'essaye avec lui d'éviter les écueils dans lesquels... je peux facilement tomber, et je dirais qu'on a de plus en plus besoin, plus on joue, plus on a besoin de ça. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on a besoin de quelqu'un pour vous soutenir, mais au contraire, plus on joue, plus on tombe dans des sillons et on retombe dans les mêmes, et on essaye d'éviter d'y tomber, mais on ne sait pas le faire. Alors on a des amis qui vous disent, puis on a des ennemis qui vous disent aussi. Mmh. Et puis, mais c'est pas sérieux, c'est pas un travail constructif, c'est des choses qui tombent comme ça dans la conversation et qui ne vous aident pas. Alors qu'avec lui, j'étudie très sérieusement chaque chose, dans chaque personnage que je joue, j'essaye de ne pas retomber dans les mêmes défauts. Je ne dis pas que j'y arrive complètement, mais je sais que j'évite pas mal de catastrophes comme ça. Il s'appelle Andreas Voutsinas. Et je crois que beaucoup d'acteurs ont travaillé comme ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, autrefois, pour citer un exemple... Sarah Bernhardt a reçu la proposition de l'administrateur du Français de jouer Phèdre. Et Rachel venait de jouer Phèdre, et quand on l'a proposé à Sarah Bernhardt, elle a été très impressionnée. Elle s'est dit, je ne peux pas jouer Phèdre, parce que Rachel le jouait d'une façon très énorme et très emphatique. Et Sarah Bernhardt, qui avait un style beaucoup plus menu, fragile, s'est dit, moi je ne peux pas jouer Phèdre après Rachel. Et elle s'est précipitée chez un petit tuteur qu'elle avait comme ça, qui était, je crois, acteur au Français. Je ne sais pas s'il était acteur. Enfin, c'était son professeur. C'était l'homme à qui elle se confiait, avec qui elle travaillait ses rôles. Et alors lui, lui a dit, voilà, vous pouvez jouer Phèdre, mais il faut oublier l'interprétation de Rachel. Il faut le prendre d'après vous. Ça ressemble extraordinairement à ce qu'on dit maintenant. Vous êtes une personne fragile, menue, etc. Il ne faut pas en faire le monstre qu'en faisait Rachel, il faut en faire une femme dans tout ce que ça comporte de vulnérable. Bon, bref, elle le raconte mieux que moi. Mais donc, elle avait besoin, elle aussi, de quelqu'un qui la connaissait, elle. Ça n'a rien à voir avec la mise en scène. Je crois que c'est une chose dont les acteurs ont toujours eu besoin.
De Sarah Bernhardt à nos jours, la difficulté d'être comédien.
En 1971, c'est un peu pire, si c'est possible, que les autres années. Mais enfin, c'est la situation est lamentable depuis très très longtemps. C'est-à-dire que il y a une poignée de gens comme moi qui travaillent et qui n'arrêtent pas de travailler. Et puis il y a tout le reste, qui sont des gens qui restent chez eux et qui sont près de leur téléphone en espérant que quelqu'un fera appel à eux. Et en général, quand on fait appel à eux, on ne les paye pas de quoi vivre. Parce qu'il y a des acteurs merveilleux qui ne travaillent pas, absolument merveilleux, que le public ne connaît absolument pas, qui n'ont jamais eu l'occasion de jouer. Parce que naturellement, les producteurs, quand ils montent une pièce, ils font appel à quelqu'un qui a déjà eu du succès parce qu'il leur semble que ça leur garantit le succès suivant. Et que le public ne demande pas tellement à voir de nouvelles têtes. Ce serait bien qu'ils demandent à voir de nouvelles têtes et de nouveaux acteurs.
Thank you. dans le chapitre des difficultés, celle du théâtre. Pourquoi ?
Parce qu'il se monte de moins en moins de pièces, les pièces qu'on monte ont de moins en moins de personnages. Vous savez qu'il y a des directeurs de théâtre qui ne lisent pas les pièces qui ont plus de 7 personnages parce qu'ils ne peuvent pas les monter. Donc ça, ils ne lisent même pas. Ils voient la première page qu'il y a tant d'acteurs et ils ne les lisent même pas. Bon, la situation est tout à fait catastrophique. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut continuer. Alors on dit toujours aux acteurs, mais ils n'ont qu'à faire autre chose. Pourquoi est-ce qu'ils deviennent acteurs? Ils n'ont qu'à prendre un autre métier. Mais certains de ces acteurs sont des acteurs qui ont beaucoup joué à une époque et qui maintenant sont complètement rejetés, abandonnés, auxquels on ne prête plus la moindre attention. Parce qu'on croit qu'ils ne sauraient plus jouer au goût du jour. En général, c'est de la blague. Et puis, il y a des tas de jeunes qui ne veulent pas faire autre chose. Quand on veut être acteur, en général, c'est qu'on le sent très fortement et qu'on en éprouve le besoin. Alors, on pourrait dire, bon, il faut qu'il fasse autre chose. Si vraiment on croulait sous les spectacles merveilleux et si toute la France était inondée de merveilleux spectacles. Mais ça n'est pas le cas. Alors, il me semble qu'au contraire, le rôle de l'État serait d'encourager les gens à être comédiens et de permettre que ces comédiens aient l'occasion de montrer leur talent et de jouer et d'exercer le métier qu'ils rêvent de faire. On ne peut pas empêcher des gens qui ont une vocation comme celle d'acteur de la pratiquer. D'ailleurs, moi, je trouve que tout le monde devrait être acteur. C'est très amusant, c'est passionnant. Et les gens seraient beaucoup moins tristes et moroses s'ils étaient acteurs.
Portrait du comédien, l'imagination.
Je crois que les acteurs ont beaucoup d'imagination. Quelquefois, la peur les empêche d'avoir de l'imagination, parce que les acteurs sont des gens qui meurent de peur, vu que quand ils ne jouent pas, ils essayent d'être engagés, de se faire engager, et ils ne savent pas ce qu'on recherche, ils n'ont pas une idée exacte de ce qu'on veut d'eux. Alors ils arrivent là en se disant, mon Dieu, pourvu que j'ai ce qu'il faut pour ce rôle, et ils n'osent pas être pleinement eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas libres, leur imagination n'a pas l'occasion de jouer. D'autre part, quand même ceux qui jouent beaucoup ont l'imagination souvent bloqués, parce qu'ils ont peur eux aussi, vu que, encore une fois, c'est le même problème, ils ont eu du succès dans une chose, alors ils se disent maintenant, si j'essaye de faire quelque chose de complètement différent, ça va peut-être rater, et je ne serai pas acceptée, j'aurai une mauvaise critique, et je serai rejetée dans mon coin, donc il faut que je refasse ce que j'ai fait avant, puisque ça a marché. Résultat, on se bloque l'imagination de cette façon-là. Mais a priori, les acteurs sont des gens qui forcément ont de l'imagination. Sans ça, ils n'auraient pas envie d'être acteurs.
Est-ce que vous croyez que les gens aiment encore beaucoup le théâtre ?
Je ne sais pas. Je crois que de toute façon, les places sont horriblement chères. Je crois que les gens sont abrutis par leur travail, qui ne les intéressent pas les trois quarts du temps, ou qui font parce qu'ils sont forcés de le faire, qu'ils travaillent trop, ou qu'ils travaillent d'une façon abrutissante, que le soir ils sont fatigués, que sans ça ils aimeraient beaucoup ça. Oui, bien sûr, tout le monde. C'est impossible de pas. On ne connaît pas, je crois, de civilisation où il n'y ait pas eu quelque chose comme du théâtre. Ça n'existe pas. C'est vraiment la chose qui se retrouve aussi bien. Enfin, dans tous les pays du monde, c'est la chose la plus c'est le point commun, c'est le point commun qu'ont tous les peuples, toutes les races, toutes les époques, tous les. Je vois pas de civilisation, de tribu ou de quoi que ce soit où il n'y ait pas eu une forme de théâtre. Alors de dire que les gens n'aiment plus le théâtre, c'est grave. À ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans l'existence qu'ils mènent. Seulement, je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont envie de réagir ou la force de réagir contre.
Travail du comédien, théâtre et cinéma, Delphine Seyrig. Thank you.
j'aimerais me partager également entre le cinéma et le théâtre. Mais c'est une question d'offre et de demande, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne me propose pas tellement de films, et parmi ceux qu'on me propose, il y en a que je n'ai pas envie de faire. Alors ça en laisse assez peu sur le tapis. Je veux dire que finalement, on me propose plus de pièces qui m'intéressent que de films qui m'intéressent. Alors c'est pour ça que je joue plus au théâtre, mais c'est le même plaisir pour moi. Dans la mesure où je peux gagner ma vie, je préfère la gagner en faisant des choses que j'aime. Si c'est au théâtre, tant mieux. Si c'est au cinéma, tant mieux. Mais s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire et que j'ai moyen de refuser, eh ben je refuse. Cela dit, je ne sais pas du tout ce que je ferais si j'avais pas un sou. Je ferais peut-être des films que je détesterais. Ça, je ne peux pas du tout garantir. Après tout, c'est quand même comme ça que je gagne ma vie. Je ne connais aucun autre moyen de gagner ma vie.
Solution possible, travail de groupe, recherche collective.
Moi, je crois qu'il faudra que les acteurs cessent d'attendre, qu'on leur propose des choses. Il va falloir que tout change et que les acteurs décident eux-mêmes. D'ailleurs, c'est commencé. Maintenant, les acteurs n'attendent plus des coups de téléphone de producteurs. Les jeunes, maintenant, se regroupent entre eux et ils montent des spectacles entre eux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'arrivent pas à en gagner leur vie, vraiment. Mais c'est, je crois, en effet, la seule façon de procéder, c'est de se regrouper entre copains, entre gens qui s'entendent, qui ont le même goût, qui ont le même humour, qui ont le même sens des choses, qui ont les mêmes goûts politiques ou autres, et puis de monter des choses qui sont en accord, et peut-être même de les monter sans auteur, peut-être d'arriver à construire leur texte eux-mêmes. Je crois que c'est vers ça qu'on va, à part quand on trouve un auteur, alors là tant mieux, c'est merveilleux, mais peut-être qu'eux sont des auteurs aussi bien que des acteurs. Tout ça, je crois que ça va beaucoup se mélanger, se confondre, il y aura moins de catégories qu'il n'y en a eu jusqu'à présent, et je pense que c'est peut-être une chose merveilleuse, parce qu'il y aura peut-être des groupes qui vont jaillir un peu partout, qui font des choses très différentes les uns des autres, et je crois qu'il ne faut plus rester isolé dans son coin comme les acteurs l'ont fait jusqu'à maintenant, où ils restaient vraiment tout seuls.
Les critiques, leur présent, aussi leur avenir, d'après Delphine Seyrig.
Quand je critique les critiques, c'est pas parce qu'ils disent des méchantes choses de moi ou des gentilles choses de moi, ça revient au même. De toute façon, tout ce qu'ils disent ne m'apporte rien personnellement, ne m'apprend rien. Et je pense que ça n'apprend rien aux autres. Peut-être que je me trompe et qu'il y a des gens qui apprennent des quantités de choses en lisant les critiques. Moi, non. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que si je ne les aime pas et si je propose qu'on les supprime, c'est pas parce qu'ils ont dit du mal de moi. Ils pourraient en dire, ils peuvent en dire quand ils veulent, c'est pas moi qui les en empêche, et ça ne changerait, c'est pas parce qu'ils disent du bien de moi que je ne vais pas dire du mal d'eux. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de réciprocité dans ces choses-là. C'est simplement que je trouve qu'on n'en a pas besoin, que ce sont des parasites. Vu qu'ils peuvent d'abord ils peuvent démolir une pièce, un auteur, etc., mais ils empêchent les acteurs, s'ils démolissent un spectacle, de gagner leur croûte, alors que eux, ayant fait une mauvaise critique, sont payés le même prix que s'ils font une bonne critique. Alors moi je trouve que c'est indécent de gagner sa vie année après année, jour après jour, en empêchant, en risquant d'empêcher les autres de gagner leur vie. C'est monstrueux, il n'y a pas d'autre terme, c'est monstrueux. Voilà.
Le fond du problème, la vie quotidienne. Peut-on envisager un double emploi ?
C'est un métier qui demande beaucoup de concentration. On ne peut pas tout à coup sauter sur les planches et faire des choses merveilleuses et puis le lendemain aller laver la vaisselle dans un restaurant. On peut le faire, mais c'est vraiment loin d'être l'idéal, vraiment. Si on en est là, si on est dans un pays qui vraiment se sent si peu concerné par les créateurs qu'ils ont, par les par les gens qui veulent, avec qui ils peuvent communiquer, jouer, s'amuser, apprendre des choses. Les comédiens peuvent faire des tas de choses pour le public. Ils pourraient exprimer ce que pense le public. Ils pourraient être le reflet de tas de choses que le public n'a pas et voudrait avoir. Il pourrait y avoir un contact entre les comédiens et le public merveilleux.
Delphine Seyrig pour les métiers de rêve a été diffusée pour la première fois le 16 novembre 1971.
Est-ce la Seine? L'ombre des feuilles sur les voitures, la terrasse, les rues de Paris sous l'azur. Est-ce la peine que je ressasse l'aventure à la terrasse? Il n'y a que le soleil qui dure. Est-ce la fille et le garçon, main dans la main, qui se prélassent à l'ombre du soleil si dur dans les jardins, sur le boulevard du Montparnasse? Les années passent, il n'y a que mon rêve qui dure. Nos rendez-vous, je les revois, je les repasse, je te l'avoue, il n'y a personne à ta place. Nos rendez-vous, je les revois, quoi que je fasse, je te l'avoue, il n'y a personne à ta place. Est-ce Paris? Ça n'a pas tant changé que ça, tu te souviens. Place des Victoires, au matin, on était beau, comme sur la photo de Doineau. Les amours passent, il n'y a que Paris qui dure. Nos rendez-vous, je les revois, je les repasse, je te l'avoue, ta place. Nos rendez-vous, je les revois, quoi que je fasse, je te l'avoue, il n'y a personne à ta place. Sur les voitures, la terrasse, les rues de Paris sous l'azur. Est-ce la peine que je ressasse l'aventure à la terrasse? Il n'y a que Paris qui dure.